شيخ، السؤال الأول حفظكم الله، ما هو الحد بالنسبة في وقت يعني أذكار الصباح من البداية والنهاية؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل سائلة،
نعم،
ما هو زمن أذكار المساء وأذكار الصباح؟ المساء يدخل من بعد أذان العصر، إذا أدى العصر الآن دخل المساء، ويشرع دعاء المساء أذكار المساء من بعد أذان العصر المساء، ويستمر إلى أن ينتهي المساء. لكن ينبغي الإنسان أن يحرص أن يأتي بالذكر أذكار المساء في وقته، حتى يأمن أن الذكر هذا يحفظك الشياطين الجن مو كثير، وهو حرص المسلم. تصور أنت الآن لما تمشي في طريق فيها أعداء كثيرة وأنت لوحدك، شوف كم يعتذر عليك، تعرض ألم. لكن لو معك جندي واحد يحرسك أنت بأمان. كيف لو معك اثنين؟ كيف معك أربعة؟ كيف معك عشرة؟ كيف معك مئة؟ أنت بأمان. ها؟ ولكن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من قال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب مباشرة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، عشر مرات بعد أن يصل الصلاة، وقالها عشر مرات بعد صلاة المغرب مباشرة، وبصر جعل وراءه مسلحة من الملائكة تحرسه. مسلحة مش واحد، ما حد مسلحة الله أعلم بها، حسوب. فأذكار المساء تبدأ من بعد أذان العصر، فينبغي الإنسان يبادر بها. وأذكار الصباح تبدأ من بعد أذان الفجر، واستمر إلى دخول يعني زوال الشمس، لأن هذه الغدوة، هذا هو اللي ينبغي الإنسان يحاول ويبكر ذلك. ما يسمع دعاء يعني كان الصباح كان ما تأخذ أكثر من 10 دقائق الإنسان، لكن ينبغي دخولها ومستحضر معانيها تقرب إلى الله تعالى.
Le cher Hafidahullah Ta'ala fait questionner sur le temps des Azkar. Le cher répondit Hafidahullah que par rapport au temps des Azkar, du soir, ceci commence à partir de l'Adhan al-Asr jusqu'à la fin de la soirée. Et ceci est important afin d'être préservé bi'idhnillahi azzawajal des djinns et des shayatins. Et le cher donne une image afin justement de donner une image permettant de se rendre compte de l'importance de la préservation par la cause des Azkar. Le fait qu'il dit qu'imagine si tu empruntes un chemin dans lequel tu es seul et tu es face à un chemin dans lequel il se trouve beaucoup de tes ennemis et tu es tout seul. Mais si jamais on t'accorde un soldat, 2, 3, 4, comment te sens-tu? Tu te sens préservé, tu es donc dans une préservation et une protection dans ton cheminement. Il dit ensuite concernant les douas du matin, l'entrée de l'heure, c'est... Excusez-moi, le chien avait mentionné un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel ce hadith, celui qui est mentionné, si la personne le mentionne 10 fois après le fajr et après le maghrib, alors Allah lui accorde un contingent d'anges, c'est-à-dire un groupe parmi les groupes d'anges qui le protègent. D'où l'importance des askar du matin et du soir. Donc le cher, il dit qu'il recommande du fait que la personne s'empresse dans leur accomplissement et dans le fait de les faire le plus tôt possible. Et le fait que l'heure des askar par rapport à l'askar du matin, c'est pour le fajr, c'est à partir de l'adhan jusqu'au lever du soleil. Et cependant, le cher, il recommande de s'empresser d'avoir la confession, c'est-à-dire de ne pas les retarder. La question, lorsqu'une femme est atteinte de métrorragie, lorsque ses signes prennent fin, est-ce qu'elle doit faire le ghusl?
L'istihara, ahkama, n'est que ahkama al-hayy ou al-nufasat. Al-nufasat ou al-hayy, هذه يخرج منها دم، وهذا الدم تعتبر يعني نجس، أي بمعنى أنه يحرم عليه الصلاة، النفساء يحرم عليه الصلاة ويحرم عليه الصيام، وكذلك الحائض يحرم عليه. ولذلك إذا طهرت وحصل عندها غلب في الظن أن طهرت لا بد أن تغتسل غسل كامل، وبعد ذلك تنظر أيضا الحارة غسل الحيض والنفساء، بخلاف يعني غسل من الجماع هذا ما يلزم الطهر، تغمر الرأس لما يحرم. دم الاستحاضة هذا دم ليس بنجس، لكنه ركلة من الشيطان، لأنه دم عرق، ودم العرق هذا ليس بنجس، لكن ينبغي تتوقع منه، ينبغي تتوقع منه. ويجوز لها أن تصوم، ويجوز لها أن تصلي، ويجوز لها أن تجامعها جميعا. وهنا يسن لها أنها تغتسل أو تتوضأ لكل صلاة، تغتسل أو تتوضأ، بمعنى إذا جاء وقت الظهر تتوضأ وتصلي، أو أنها تغتسل إذا شاءت. هذا الباب السابع ليس وجوبا، مش كدم الحيض والنفع النفساء، ولا أن تجمع بين الظهر وبين العصر، يعني جمع صور يسمى جمع صور، ليس قصر وإنما جمع. فإذا جاء وقت دخل وقت الظهر تغتسل أو تتوضأ وتصلي الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات، وكذلك المغرب لكي تجمع دون قصر. وإذا انتهت زمن الاستحاضة لها أن تغتسل من باب الاستحباب ليس وجوبا. هذا
Le cheikh Abdallah Ta'ala explique que le sang des métrorragies n'est pas similaire dans ce jugement par rapport au sang des règles et le sang des sangs postnataux. Le sang postnatal est un sang qui est impur. De ce fait, il interdit à la personne qui a ces sangs-là, qui émanent de sa personne, et en ceci, il interdit la prière, le jeûne. Et c'est pareil pour le sang des menstrues, les règles. Et si le sang est écoulé, il en est fini son écoulement, c'est-à-dire qu'elle a ras la botte vingt. C'est-à-dire qu'elle est à 70% entre guillemets, pour passer l'expression, c'est-à-dire qu'elle est quasi sûre que le sang a fini de s'écouler. Alors dans ce cas-là, elle a rempli le rousse et elle a accompli ses adorations normalement. Quant au sang des métrorragies, en lui-même, il n'est pas impur. On s'en prémunit, mais cependant, ce n'est pas un sang qui est impur. Et ce sang-là, le sang des métrorragies, ne l'empêche pas de jeûner. Elle jeûne, la femme qui a des métrorragies jeûne, elle prie et elle peut avoir des rapports avec son époux, avec son conjoint. Ensuite, concernant parmi les arcanes mentionnés par le chir vis-à-vis de ce qui est lié au. À la femme qui est affaire de métrorragie, c'est le fait qu'il lui est recommandé. Le chir insiste sur le fait que c'est recommandé, c'est obligatoire, qu'elle fasse le rousse ou le wudu à chaque prière. Ce n'est pas de l'ordre de l'obligatoire. C'est-à-dire que quand la prière va rentrer dans son heure, elle peut, par exemple, refaire le rousse, il lui est recommandé de refaire le rousse ou de refaire le wudu pour chaque prière. Et elle peut rassembler entre dhuhr et asr, mais sans qasra. C'est-à-dire que le jam lui est autorisé dans le fait de joindre entre deux prières, mais cependant il ne lui est pas permis de réduire les prières comme pour le voyageur, c'est-à-dire de faire dhuhr en deux rakas, asr en quatre rakas. Elle peut réunir les prières, mais cependant elle les réunit en les faisant complètes, c'est-à-dire que dhuhr est en quatre rakas, asr est en quatre rakas, maghrib est en trois rakas et isha est en quatre rakas. تسأل بالنسبة إلى أبوها إلى أبيها وهو ما تكابل وكما تعرفون يعني ما تكابل من كفر، ولكن يعني كما تعرفون بالنسبة إلى دفن الميت في فرنسا يعني ندفع يعني كإيجار لأجل أن الجسم يبقى يعني في حفظه، وإذا لم ندفع بعد خمس سنوات يخرجون الجسم ويجعلون يعني في مكان يعني في أجسام الناس يعني جيدة. وهي تسأل وإذا هي انتقلت يعني من فرنسا وهاجرت يعني وانتقلت يعني إلى بلدان الإسلامية، هل يجب عليها أن تدفع لأجل أن جسم أبيها تبقى يعني في مكان يعني مدفونة فيه؟ نعم؟ هي مسلمة ولكن الأب يعني كافر. La question, salam alaykoum wa rahmatullah, qu'Allah vous comble de bienfaits, vous allez m'en. Mon père est mort mécréant, mon père est mort kèvre. En France, on paye comme un loyer pour 5 ans pour l'emplacement de la tombe. Au bout de 5 ans, soit on repaye le loyer, soit le mort est déterré et mis dans la fosse commune, c'est-à-dire mélangé à d'autres ossements. Si je fais l'hygiène entre temps, est-il obligatoire de renouveler à distance ce loyer?
لا يلزم أن تدفع يعني قيمة القبر، ثم أن الميت إذا وضع في قبره في الغالب أكثر الناس أنه يرم، يعني بعد أيام يبدأ ينتفخ ثم ينبعث، ثم قيم الدود والقيح وتتشرب الأرض ويبدأ يجف ويتحول مع الأيام إلى عظام وتراب، دود وتراب، ما يبقى شيء منه إلا عقب الجنة، عقب الدم، عظم صغير أصبح، بس فقط هذا يبقى كل إنسان يبقى ويبعد منه. وهناك من لا يتغير جسده هم الأنبياء، وذكر أهل العلم بعض أولياء الله تعالى، وذكروا حفاظ القرآن وغير ذلك، الصحابة رضي الله عليهم الذين ماتوا في الجهاد وجدت قبورهم لما جاء السيف جرفها وجدت قبور الإسلام في المكان، وهذا كرامة لهم. أما الكافر هذا لا كرامة له، إذا مات هو كفر، لا يغسل ولا يكفر ولا يوجه قبلة ولا شيء. ومرة أنا كنت في زيارة إلى مرة في مكة، وسألت اللي هناك هم قائمون على المطاهر، قلت أنتم الآن الذي أرى أن المقابر هذه زي الدرك عليها القطع، وأعلم أنكم بعد مدة تأخذون ذكور القبور هذه، إيش تفعلون؟ قال نحن نترك القبر 4 سنوات، بعد 4 سنوات إذا فتحنا القبر ما نجد إلا هذا القبر الذنب بس، فنحفر له حفرة في داخل القبر وندفنه، خلاص انتهى، وندفن واحد جديد. ومرة أخبرني ابن خالي الله يغفر له ويرحمه توفى، وبعد ما يقارب يعني 5 أو 6 شهور أخبروا ابنه قالوا اليوم سننقل يعني والدك إلى جهة القبر بجنب القبر في داخل القبر، فتحته قال أحنا، فجاء فتح القبر ونزل ما وجدنا قال العظام خاص، كل شيء انتهى ما في إلا عظام بنى، والعظام بدأ كمان تو، فقال أخذوه ونحوه جنب الجدار وربوا في المحل الذي يأتي ميت جديد. إذا اللي يقول لك بعد 5 سنوات تدفعوا الرسوم، بعد 10 سنوات قول لهم احفروا إذا وجدتوه لكم، وإذا ما وجدتوه ادفنوا ما شئتم، ولا تدفع رسوم ولا شيء. طبعا مرة قال لي استرسل واحد لزاد يخبره، يقول دفعنا لرجل مدة 10 سنوات طبعا، يقول مش عارف كم 1000 يورو، والآن قالوا لنا إما تدفعوا على سنة جديدة ولا تشيلوا قبركم وتودوا إلى بلادكم. قال قلت له قول لهم شيلوا الميت انتم لكم، احفظوا شوفوا اذا افعلوا ما شئتم به ما يحصل شيء. فهذه يعني من استقراءات الاسلام القبور واوضاعها وحال الناس فيها، وهي ترم كما اخبر الله تعالى انها يعني اسمها رميمه، ايش الرميمه؟ يعني ترمي. نعم.
Donc la traduction résumée des propos du chef par rapport à la réponse de cette sœur. Mais le fait, je réitère la question, est-ce qu'on doit, il y incombe à une sœur dont le père est mort mécréant qu'elle continue à payer pour que le corps de son père reste en place, c'est-à-dire qu'il ne soit pas mis dans une fosse commune. Premièrement, le chef a répondu dans le fait d'expliquer que ceci ne lui incombe pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligatoire pour elle de payer afin que le cadavre de son père, afin que la dépouille de son père reste dans l'endroit où il a été enterré. Sachant que le chef explique que le mort, lorsqu'il est amené à être mis dans sa tombe, et le corps se décompose, il est consommé par les vers, etc., et son corps se dessèche, et au final, en vérité, il ne reste qu'un morceau de l'os au niveau du coccyx, et c'est à partir de ce morceau d'os qui reste du corps de l'être humain à partir duquel les gens seront reconstitués. Il dit après, il a été rapporté par certains parmi les gens de science que certains parmi certains individus ont des corps qui sont intouchés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas affectés par le passage du temps. Parmi eux, les prophètes, le fait que leurs cadavres ne sont pas affectés, et lorsqu'ils sont enterrés, leurs cadavres ne rentrent pas dans un état de putréfaction. Il dit, et certains morts parmi les sahabas morts au combat, il dit, mais ça c'est de l'ordre de ce qu'on appelle la karama, il y a un prodige qu'Allah octroie à certains parmi ses serviteurs. C'est une exhortation pour les gens. Après, il fut mentionné cela par certains gens de science, mais il n'a pas mentionné de dalil par rapport à ce le fait que les prophètes dans le Coran seraient préservés de la putréfaction dans la tombe. Il dit, donc, le fait que donc, ça, c'est ce qui attend toute personne qui rentre dans la tombe. Il dit, à la base, la personne qui est musulmane, qui décède, elle a un traitement dans le fait qu'on la lave, on prie sur elle, on l'enterre, etc. Tous ces arcanes qui sont liés à ça. Il dit, quant au kafir, il n'a rien de tout cela. Kafir, il n'a rien de tout cela. La personne qui est morte mécréante, on ne la lave pas, on ne lui fait pas le lavement mortuaire, on ne prie pas sur lui, on ne l'enterre pas avec les musulmans, dans le cimetière des musulmans. Il n'a pas tout, c'est marque de respect liée à l'étiquette de l'islam. Et le cheikh Hafidhahullah, il raconte une anecdote que je résume, dans laquelle il avait questionné des gens qui s'occupaient des tombes. Ils s'occupaient des tombes et de l'enterrement à Mecca. Et ils ont témoigné que lorsqu'ils laissent une tombe au bout de 4 ans et qu'ils sont amenés à réouvrir la tombe, ils ne trouvent que le petit os, c'est-à-dire le petit os qui persiste de l'organisme de l'individu. En vérité, il n'y a plus rien qui reste. Non. Et c'est, le cheikh a rapporté une anecdote par rapport à la chose même. On a voulu déplacer le cadavre à la membre de la famille du cheikh, en fait, dans Allah, et lorsqu'ils ont voulu ils ont ouvert la tombe, ils ont vu qu'il restait que cet os. Ce petit os qui reste. Donc en vérité, tout le reste est consommé et consumé par les gens.
سؤال بالنسبة لحكم التعليم علوم الدنيوية في المسجد علوم الدنيوية الهندسة مثلا الكيمياء
العلوم الدنيوية التي ليس فيها محرم شرعا لا بأس أن يتعلم النساء إذا كان جلس في المسجد وتدارس ويقرأ في كتاب علوم الدنيا اللي فيها منافع للناس لكن بشرط أن لا يكون فيها شيء محرم لا يتعلم علوم الربا في المسجد يعني معنى يتعلم الربا مشان يعمل بها ما يجوز او العلوم الخبيثه او القصص الخليعه الماجنه اللي فيها فتن هذا ما يجوز هذا دين الله معظمه هي للقران وللصلاه وللذكر مثل اخبر الرسول عليه الصلاه والسلام لكن مع ذلك الامور مباحه تجوز فالعلوم الدنيويه مباحه والانسان يضرب في الارض اي العلوم هذه طالما ليس فيها محرم لا فيها سحر لا فيها اغراق لا فيها
Donc la réponse résumée du cheikh Hafidhahullah Ta'ala concernant la question était quel était le jugement concernant le fait d'enseigner des sciences de la dunya, donc ce ne sont pas des sciences religieuses, ce sont des sciences profanes, il y en a dans la mosquée. Le cheikh, dans le propos qu'il a tenu, il dit que la science de la dunya, le fait d'étudier, de lire un livre, de l'enseigner, de bénéficier aux gens dans la mosquée, il n'y a pas de cela de mal si cette science de cette dunya-là qui est enseignée en elle-même est licite, en elle-même. Il dit que ce ne soit pas, par exemple, le fait d'enseigner la science qui est liée à la riba, c'est-à-dire le fait d'avoir des transactions usuraires qui sont illicites, dans le but de la compagnie. Ceci, ce n'est pas permis. Il dit à la base, la mosquée, c'est un endroit qu'on doit révérer, qu'on doit respecter. Et donc, la mosquée, comme le prophète Hassan l'avait informé, c'est pour la lecture du Coran, c'est pour l'accomplissement de la prière, c'est pour le fait que l'on fasse le dhikr d'Allah Azza wa Jalla. Cependant, le fait qu'on utilise la mosquée comme un lieu pour l'enseignement de choses qui sont illicites, il n'y a pas de mal. Donc, ce n'est pas une science qui est en elle-même illicite, comme celle qui a été mentionnée précédemment, ou le fait d'enseigner le sihr, des choses qui sont inappropriées. سؤال يعني نقطتين يعني ما هي توجيهاتكم بالنسبة إلى الهجرة هذا الأول وهل يعني أفضل يعني التزوج قبل الانتقال أو بعد الانتقال من بلدان الكفر
الهجرة هذه مسألة الهجرة تكلمنا فيها لأكثر من مجلس وأذكر أن في آخر مجلس في هذا المسجد آخر دورة قمناها في هذه كان في نوفمبر أو ديسمبر تكلمنا في هذا الموضوع كثير فصلنا فيه تفصيل وأظن هذا مسجل للأخوة موجود والأصل في الهجرة من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر ومن بلاد الكفر إلى الإسلام أنها من بلاد الإسلام إلى الكفر لا تجوز محرمة إلا لضرورة شرعية. إذا استضعف واضطهد صار ما يستطيع عبد الله في بلاد الإسلام يحصل على البلاد وهذه هذا معلومة. ثم إذا قام بلاد الكفر يجب أن يؤدي شعائر دينهم الظاهرة بتمام وكمال ولا يمنع منها فيكون الهجرة مستحبة إذا كان بلاد كفر عليه ويستطيع صوم رمضان ويذبح في العيد ويصلي الصلوات الخمس ويؤدي الزكاة شعائر الدين وعلم أولاده القرآن والدين وعلم زوجته وهكذا شعائر الدين الظاهرة مستحب لو أن يهاجر من بلاد الكفر. أما إذا منع من إقامة شعائر الدين الظاهرة فهذا يجب عليه وجوبا أن يهاجر. وإذا لم يهاجر فهو آثم وعليه ولي بآية القرآن سورة النساء. فهنا لابد أن يهاجر. وإن هاجر فهاجر إلى أي موضع في أمان حتى إلى بلاد الكفر أخرى. إذا لم يصف بلاد المسلمين بلاد الكفر أخرى يكون فيها مجال لإقامة شعائر دينهم على وجه كامل. والأولى بها أن يكون بلاد المسلمين إن كان هناك بلاد جاهلية هذا أخرى فاخرة سبب لأن الإنسان خلق عارف بالله تعالى. فإذا منع من العبادة ما يجوز أن يصوم لازم يعني. هذا الذي ورد في مسائل الهجرة. ومن سأل سؤال من هذه الأسئلة وعرف الجواب ولم يعمل به فقد قامت عليه الحجة. حجة قامت عليه الآن قبل السؤال وبعد السؤال فرق عظيم. قبل السؤال قد يكون جاهدا يعرف أما إذا سأل وسمع الجواب بالأدلة الشرعية وإذا أردت أدلة شرعية فصل ما جاء في القرآن والسنة بعد ذلك يأثم فعليكم عظيم. إن الذين توفاهم ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. ثم جاء بعد ما علم عذاب أليم شديد يوم القيامة. ليش ما هي ظالمة مستضعفين ليش مستضعفين ألم تكن أرض الله واسعة شرق أرض شمال جنوب يعني الدنيا هذا كلها ظالم بطل. فهؤلاء عليهم وعيد شديد. هذه الآية ثابتة في كل من منع من عباد الله على الوجه الصحيح ثم لم يهاجر مستضعف قال مستضعف
Donc la question que je pose au cher, j'ai posé deux questions. Il a répondu à la première avant, Inch'Allah, de répondre à la deuxième. Le premier angle de la question, c'était quels sont vos conseils et vos orientations par rapport à la hijra. Le cher, en résumé de ses propos, expliqua que la hijra, Dieu en a parlé dans plus d'une assise, notamment ici en novembre ou en décembre, et nous avons détaillé cela, c'est-à-dire le sujet de la hijra, et cette assise a été enregistrée. Et ce fait que le cher vous renvoie à cela, à cet enregistrement. De plus, le cheikh Hafidallah a expliqué que la hijra, que ce soit si c'est une hijra qui est accomplie des pays musulmans vers les pays de Kouf, ce n'est pas permis. Là-bas, c'est que ce n'est pas permis de partir des pays musulmans vers les pays de Kouf, à l'exception dans le fait que ce soit accompli dans le cadre d'une absolue nécessité, dans une absolue nécessité. Et quant à la résidence, justement, suite à cette darouah, cette résidence est accomplie dans les pays de Kouf. C'est une résidence dans laquelle il doit y avoir pendant cette résidence-là la capacité totale de manifestation ou ostentatoire de sa religion. C'est une manière de manifester sa religion de manière complète et totale sans aucune entrave et sans aucune interdiction émanant des autorités locales. Et s'il est dans cette situation, c'est-à-dire que la personne s'est déplacée d'un pays musulman vers un pays mécréant de par la nécessité et qu'il se retrouve dans un pays mécréant mais dans lequel il peut pratiquer de manière ostentatoire complètement ouverte et totale, sans interdiction, sans restriction, sa religion, alors pour lui, partir, c'est recommandé. C'est alors recommandé pour lui de partir, ce n'est plus obligatoire. S'il accomplit ses obligations religieuses et sa religion, il la pratique de manière ostensible et ostentatoire, sans aucune gêne et aucune entrave. Cependant, s'il vient à ressentir des entraves, c'est-à-dire qu'on l'empêche de pratiquer sa religion correctement, c'est alors obligatoire pour lui de partir. Non. Et s'il reste alors qu'il a la capacité de partir, alors il est pécheur. Et il dit donc qu'il se doit de partir. Même si ça implique de partir dans un autre pays, de Kouf,
mais dans lesquels il y aurait la sécurité et la capacité de pratiquer sa religion de manière libre et totale. Et le cheikh, sallallahu ta'ala, il dit, il apporte un point important par rapport à la question. Il y a la personne qui a posé ces questions-là sur le sujet d'un hijra. Il dit, il y a eu un avant et un après la question. Pourquoi? Parce qu'il y a eu la réponse entre temps. La personne qui pose la question sur le sujet d'un hijra, qui après la question a reçu une réponse basée sur le Coran et la Sunna, avec la compréhension des prédécesseurs de cette communauté, et qu'il a entendu la réponse, maintenant la preuve a été établie sur cette personne. Elle n'a plus d'excuses devant Allah. Avant la question et avant la réponse, peut-être qu'elle avait l'excuse d'être ignorante. Maintenant qu'elle a eu la question et la réponse, maintenant, elle n'a plus d'excuses devant Allah Azzawajal par rapport à cette chose-là. Et il ramène un verset qui il dit que ce verset concerne toute personne qui viendra à résider, à persister à résider dans un pays mécréant, dans lequel la personne est empêchée de pratiquer sa religion correctement. Il est sous la menace du verset lorsque Allah dit, traduction prochaine du sens du verset, et ceux dont les anges recueillent leurs âmes tout en étant dans une situation dans laquelle ils ont été injustes envers eux-mêmes. Et les anges leur les questionneront, les blâmant, où en étiez-vous? Et par rapport à la migration, ils diront, nous étions faibles sur la terre. Ils leur diront en guise de blâme, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour que vous puissiez y faire les migrations? Et à la fin du verset, il est mentionné que ces gens-là sont sous la menace d'un châtiment douloureux.
إيضاح للدليل في هذه المسألة من كتاب الله تعالى حتى يقف الإنسان على معاني القرآن. قول الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، لأن ظالمي أنفسهم معنى أنهم مستكينين عن أداء العباد على وجه الصحيح. قالوا فيما كنت الوالد توفى ولا وين كنتوا؟ قال كلهم استطاعوا. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم يأبون إليها وساءت مصيرا. يدخل الجنة ساءت مصيرا، هذا تستطيع أنت تحتمل من نار الدنيا دقيقة يبرى رزقك؟ ما تستطيع، فما بالك في نار جهنم. ثم هذا دخول النار هنا ليس على ما القلوب لأنه مسلم، القلوب ما كل ذكاء لكن يمكن الله لم يكتب على قدر ذنبنا على قدر جرمنا إلا أن يكتب الله تعالى. ثم قال إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون سبيلا، مستضعف فقير ما يستطيع، مريض مرأة رجل أولاد صغار ما يستطيعون، يضطرون أن يمكثون. وهذه نزلت الحق اللي كان في مكة لما هاجر الإسلام من مكة كان دار كفر إلى المدينة، بقي من بقي من المستضعفين هؤلاء جاء في حقهم، وتجد أيضا لمن كان مثلهم. انظر بعد ذلك ترغيب الهجرة وأن الهجرة عظيمة، قال بعد إيش؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما كثيرة وسعة. كيف؟ الله تعالى وسع له، يعني يفتح له أبواب ما يدري وين. قال يقول أنا وين أروح؟ بالنسبة ما في شغل، ما في عمل، ما في رواتب، ما في كذا، ما في علاج، ما في باقي. ما في كم بتعيش أنت يعني؟ كم تعيش؟ ألف؟ ألف سنة؟ ما في اليوم أكثر ناس 50 60 24% يموت. طيب بعد الموت ايش؟ حساب وعقاب او جنة ونعيم. اذا انت فرد دينك يعني الموت لا بد منه. وما احد يموت من الجوع، من خرج من بركوع الى الاسلام ما يموت من الجوع ابدا، يجي طعام لان الله تعالى يتكفل الرزق. ما اريد منهم الرزق وما اريد ان الله ايش؟ مش الرازق الرزاق، يعني كثير رزق يرزق كل واحد، يزول الطير ويزول الناس ويزول كل من على وجهه يزول، وكل واحد علمه الله كيف يصل الى رزقه. الطيور هذه وين رزقها؟ حيكون تحت الارض، تشوفه تحت الارض. الهدهد هدهد سليمان كان لما راى ملكه بلقيس وقومها من الظلال في ذلك الزمان يعبدون الشمس انكر عليها، قال يعبدون يا بيت الله يعبدون الشمس ألا يعبدون من الذي يخرج الخبأ من الأرض؟ ايش الخبر؟ يعني رزقه تحت الارض يرى الهدهد يرى رزقه تحت الارض. والطير لما تطير في السماء اذا اردت الماء ترى الماء في قصبة طويلة داخل وتدخل تشربه تبقى الماء ترى من بعيد بس الله تعالى فهم الانسان في الارض مراغما وسعه ورزقا وتوفيقا وفتح ابواب. لكن المشكله ان الايمان ضئيل. حتى اللي يهاجرون يقول انا مهاجر في سبيل الله لوجه الله وهو ما صحيح. بعد شهرين ايش كذا ولا شوي عمل عندي بال. لكن ما يرد الله تهاجرت في الانجاز يعني ويعمل له انا شغل رايح جاي رايح جاي هذا ما يجيب هذا معلم. فانتبهوا المساله الله. اما من نوى الهجره واراد الزواج فانا انصحه انه يبادر الهجره لان فيها وليد. اما اللي ما يتزوج ما في وليد ما في وليد الا اذا كان عدم الزواج واذا منكر هذا طبعا ما في وليد. فالنبي قال لما الهجره ثم اذا هاجر الى بلاد المسلمين وجد المراه صالحه مسلمه من الاسلام لا تنتقم ولا تأثره ولا أحد يقول له ولا تفعل كذا ولا تقول له كذا ولا تفعل الذين تزوجوا بلا الكفر تحكمهم النساء ويحكمهم الأولاد وتحكم الدول على الأولاد كذا على كذا على كذا فور هذا شيء أنت الولد لا توقف نفسك. فأنت ما عرفت الأمور هذه من يحكم ويقول ايش في فم ماء ولا ينطق من في فيه ما
هو الله. الشيخ حفظه الله تعالى apporte un peu plus d'emphase concernant le sens du verset. Dans la traduction approximative du sens, c'est la suivante. Yani ceux dont les anges recueillent leurs âmes alors qu'ils sont injustes envers eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas, n'ont pas parfait l'adoration d'Allah Azza wa Jalla et de la manière, ils ne sont pas, ils n'ont pas établi l'adoration d'Allah Azza wa Jalla à la manière qu'il convient. Et leur disant où vous en étiez, c'est-à-dire par rapport à l'immigration, ils diront nous étions faibles parmi sur la terre. Ils leur diront, bien dans une manière de les blâmer, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste afin que vous puissiez y émigrer et y faire l'immigration. Et il est décrit ensuite dans la suite du verset ceux-là sont ceux dont la destination sera la Géhenne. Et quelle mauvaise destination. Et le cheikh, il attire ton attention, sur le fait que est-ce que tu peux supporter une seconde d'être mis dans la Géhenne. Cependant, à la suite du verset, Allah Azzawajal fait mention de l'exception des hommes et des femmes et des enfants, ceux qui sont faibles, c'est-à-dire qu'ils ont l'incapacité de pouvoir emprunter un chemin pour accomplir la hijra. Eux sont excusés. Et cependant, dans le verset, dans un des versets que le cheikh il mentionne, il y a cependant le fait qu'Allah a promis d'accorder sa subsistance à Azzawajal de pouvoir pour celui qui emprunte le chemin de l'immigration, c'est-à-dire celui qui émigre. Et donc, de ce fait, beaucoup de gens se trouvent des excuses, il n'y a pas de travail en faire l'islam, c'est difficile, etc. Ils trouvent des prétextes. Et ils disent, en vérité, quand tu vas émigrer, tu ne meurs pas de faim au pays musulman. La personne qui quitte les pays de Kouf pour aller au pays d'islam, en vérité, il ne va pas mourir de faim. Hein? Il ne va pas mourir de faim. Mais cependant, il n'a personne à faire les causes. Et c'est pour ça qu'il ramène le verset, car Allah t'a pas raconté à la vie, traduction de la constitution du verset, je ne désire pas d'eux, c'est-à-dire de la part des êtres humains, qu'ils me pourvoient en subsistance ni qu'ils ne me nourrissent. Et Allah est Ar-Razzaq. Et Ar-Razzaq, ça renvoie au fait que c'est celui qui détient beaucoup de subsistance, qui octroie énormément de subsistance à ses serviteurs. Et donc, Allah a enseigné à tout un chacun comment obtenir sa subsistance. Et le chien est un même exemple de la huppe. C'est-à-dire qu'il y a des oiseaux, comme la huppe, c'est un animal qui, lui, arrive à voir à travers le sol des choses qui sont des subsistances pour lui, mais qui sont dans le sol. Et c'est pour ça qu'il montre lui-même la huppe, qui est, il y a mis dans l'époque de Suleyman, lorsqu'elle constata l'adoration d'autre qu'Allah, qui était l'adoration du soleil par le peuple de la reine de Saba, Bilqis, et il les a blâmés lorsqu'il rapportait cela. C'est-à-dire qu'il blâma le fait qu'ils adoraient le soleil, et il disait pourquoi n'adore-t-il pas celui qui fait sortir la subsistance du sol, c'est-à-dire le type de choses que les oiseaux mangent qui sortent du sol. Et donc Allah, le pourvoyeur, mais notre foi est faible. Il dit, c'est pour ça que tu vois certaines personnes, ils annoncent aux gens, je fais l'immigration pour Allah. Ils annoncent ouvertement, mais tu vois qu'au bout de 2 mois, il revient. Tu dis, non, mais je veux juste travailler à son appel d'argent, puis je repars. Et au final, il ne fait, sa hijra consiste à ne faire que les allers-retours,
Et au final, en vérité, lui n'a pas émis, n'a pas réellement émis. Donc après, concernant le chef, ensuite, après avoir ajouté ceci, par rapport à l'angle numéro 2 de la question, par rapport à ce que c'est privilégié, on devrait privilégier le fait de se marier avant de faire la hijra ou non, il dit, le fait de faire la hijra est à privilégier avant de se marier. Pourquoi? Parce que concernant le fait de faire la hijra, sur ça, il y a une menace sur celui qui ne la fait pas. Tandis que le fait de ne pas se marier, à la base, n'est pas une menace. Sauf dans le cas où la personne serait dans une situation où il craint de tomber dans une transgression, c'est-à-dire dans le péché, s'il ne se marie pas. Ça, c'est autre chose. Et le fait que le shir, il dit, les deux sont joignables, dans le sens où la personne peut très bien faire l'immigration, une fois immigrée, et une fois ayant immigré, une fois arrivé, elle peut alors essayer de se marier. Sachant que comme il a expliqué, combien de frères, par exemple, se sont mariés en France, et au final, c'est les femmes qui font que le jugement tombe sur eux. C'est-à-dire que quand ils ont des problèmes et des conflits maritaux, le problème c'est que l'État donne la belle part à leurs femmes, et des fois ça leur cause du tort. Je suis surpris que ça soit passé au filtre déjà.
Il est bien passé.
هذا اللي عنده سؤال طويل خليه يجتمع لك ويعطيك ملخص
أعطيك الملخص يا شيخ جيب أعطيك الملخص
لا هو يتكلم أعطيك الزبدة في السؤال
هو يعني السؤال يعني سهل
طويل بس
لا لا سهل رغم أنه طويل سهل ولا يعني مهم
شفته
يعني هذا أخ يذهب للرياض يقول عندهم في مدينتهم مدينة صغيرة وليس هناك مسجد سلفي وهناك أخ من مدينته ذهب إلى الرياض لكي يدرس ودرس يدرس يحضر لدروس شيخ الفوزان شيخ الحيدان يقول يعني يريد أن يرجع إلى المدينة لكي يدرس وبعض الإخوة شددوا عليه
قال مدينة
وين؟ هذا في فرنسا
مدينته
نعم كي يدرس
يدرس إيش؟
يدرس ما تعلمه من المشايخ
إيه لكن هو هاجر
ذهب للدراسة قبل هناك في الرياض في الجامعة في الجامعة نعم
ولكن هنا يدرس إخوانه
نعم
وهنا يستطيع يمشي على ديره على الوجه الصحيح
ما ذكر هذا الشيء
الآن مفيد الآن واضح سؤال ها يقول إنه يعني ذهب إلى المدينة تعلم العلم الشرعي والآن يريد يرجع إلى هذه البلاد أو يرهن بهذه البلاد يعلم أخوانه العلم الشرعي يقول هذا جائز طيب هذا الشيء لكن بشرط أن يكون يستطيع يؤدي شعائر ديره على الوجه الصحيح ظاهر مثل ما وصلنا السؤال الأول هذا طيب يعلم اخوانه هنا يستفيدوا منه داعي الى الله تعالى هذا شيء طيب لكن اذا كان ما يستطيع يمشي على دينه وهذا الذي يظهر كثير من هذه البلاد ها اذا هو يبي درسه اما هذا وجوده لا يتم لا يجوز محرم فكيف يسعى الى شيء يعني نفي مستحب ويترك المحرم اللي عليه واضح؟
لا تبقى الى طيب اكيد
ولكن بعض الأخوة شددوا عليه قالوا يعني ليس عنده المستوى كي يدرس
موضوع
هذا هو السؤال لهذا طرح السؤال يا شيخ
موضوع أن
هذا يجوز
يقولوا هؤلاء أنه ليس عنده مستوى هل هم عنده مستوى حتى يقيموهم ها ما يقوم إلا واحد عنده علم أكثر من هذا واحد ما عنده علم حاسس يقول أنت ما عندك علم طيب أنت عندك علم ها كيف أفضل هذا ما عنده علم؟ هذا للحسد يحسدونه ما يريدون الخير بعض الناس لما يشوف واحد أفضل منه ما يستطيع يسلم حياته يقوم يكبر أعوذ بالله الحسد هذا شأنه خطير هذا مرض على الناس فدعك من هذا تستطيع بالقدرة على تعليم الناس وإفادة الناس هذه نعمة عليك أنت الآن على درب الأنبياء دعاء يا درب الأنبياء يلان الأنبياء ولا ما يردون الأنبياء لكن على الشرط اللي ذكرنا إذا استطيع يمشي على الدين المؤمن أن يعلم عليك من الله تعالى ودي أقول هذا اللي يقول ما عندك علم وأنت اللي يقول ما عندك علم وأنت اللي يقول ما عندك علم ها؟
Donc le chef, Hafizahullah, de par ce qui a été résumé la question, mais cette question elle sera reliée au chef, Inch'Allah, pour demander une réponse plus détaillée sur ça, parce que je pense qu'il y a des détails importants qui manquent. Allahu a'lam. Le fait qu'un individu
est parti en terre musulmane, notamment dans le royaume d'Arabie Saoudite, qui est le président de la section gouvernement à ce moment. Il en est en train d'étudier et il revient en terre de couvre afin d'enseigner. Et certains frères et amis posent problème sur lui. Déjà, le chef a dit celui qui a étudié en terre d'islam, a étudié avec les éléments, etc., et qui revient en terre de couvre afin d'enseigner, s'il est dans la capacité d'enseigner, tout en étant en capacité de pratiquer sa religion de manière ouverte, c'est-à-dire de manière complète, hein, sans avoir d'entrave dans sa religion, alors dans ce cas-là, oui, c'est quelque chose de bien pour lui de faire. Mais cependant, s'il ne peut pas pratiquer sa religion, s'il ne peut pas pratiquer sa religion de manière ostentatoire, de manière claire et ouverte, alors il ne peut pas. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'il va, alors vers quelque chose qui lui est interdit, dans le but d'accomplir quelque chose qui lui est recommandé. Et concernant le deuxième angle, je pense qu'il y a d'autres angles à voir en même, mais on va déjà aborder ce deuxième angle à la du fait. Il y a ceux qui sont, qui nous disent qu'il n'y a pas de niveau. C'est-à-dire qu'un individu, il a étudié les clairs alema, il a appris la science en pays musulman, etc. Il a de la science, il veut l'enseigner, mais des gens locaux lui disent, mais toi, tu n'as pas de niveau. Le chien, il dit, mais ces gens-là, ils ont, de quel niveau ils ont eux pour dire aux gens que tu n'as pas de niveau, hein? Donc il dit ça, en général, ça vient de la jalousie. Hein? Il dit, ça vient de la jalousie, et ce sont des gens qui, en général, ils ne souhaitent pas le bien pour la communauté. Il dit, donc ce genre de propos délaisse la personne qui est capable de pratiquer sa religion ouvertement. Il a étudié avec les mains, il a étudié, il a la capacité d'enseigner, de faire profiter sa communauté, alors qu'il ne fait pas attention à ses propos qui lui sont tenus, et il enseigne.
سؤال من رجل يعني يريد أن يفتح يعني أن يصنع موقع على الإنترنت للبيع العطور للرجال وللنساء كذلك يعني للمسلمين وللكفار كلهم ويقول هل علي يعني مسؤولية بالنسبة للنساء يعني إذا تشتري يعني هذه العطور وتستعمل يعني في طريقة يعني خالف الشرع مثلا هل يجب علي مثلا ان يكتب يعني على الموقع هذا يجوز لاستعمال النساء خارج البيت الى اخره هل عليه هذه المسؤوليه؟ نعم.
Donc la question d'un individu, je ne sais pas si c'est un frère ou une sœur, à la collègue, c'est un individu qui souhaite ouvrir un site internet dans lequel il se livrerait au commerce de parfums pour les hommes et les femmes, musulmans, non musulmans compris. La personne demande, est-ce que la personne rendait compte et est responsable par rapport aux femmes qui viendraient acheter ce parfum et l'utiliseraient dans un cas qui contredit la charia, c'est-à-dire le fait de l'utiliser dehors. Et donc, est-ce qu'il est dans l'obligation de prévenir contre cela, par exemple, de l'écrire, de le mettre, de le mentionner dans son site, comme quoi ceci est interdit comme agissement vis-à-vis des femmes. C'est-à-dire que ce n'est pas permis aux femmes de sortir en étant parfumées.
أن تكون في حزن تملكها يعني. بعض الناس يبيع ما لا يملك. يروح يصور من دكاكين ياخذ سعر ويروح. عندي كذا عندي كذا عندي كذا. هذا بيع ما لا يملك ما يجوز. أول شيء تكون بضاعة تملكها. ثانية تكون هذه البضاعة ليست محرمة بذاتها. كالخمر مثلا محرم بذاتها. ها؟ هذا لا يجوز. كل ما حرم بذاته لا يجوز أن يبيعه. أما كون ليس محرم بذاته لكن ممكن يستعمل كمحرم هذا ما نقدر تبيع عقور الأصل فيها إنها ما هي محرمة العقور خاصة بالنساء وخذ الرجال هم يشترون وما يشترون من استعمل بشيء جائز هو له الحق وله وليس عليه وما استعمل بشيء محرم يحرم عليه وهو اللي جائز وأنا أضربكم مثال ما تقولون في بيع التمر وبيع العنب حلال ولا محرم؟ حلال. طيب التمر هذا والعنب ممكن واحد ياخذه يعمله خمر ولا لا؟ ها؟ طيب لما تبيع بقى التمر تقول له ترى اذا بتستعمله خمر ما بيع لك. مش عارف ثم انت مسؤول عن هذا. ها؟ الاصل انها التمر والاصل انها يؤكل ولكن في ناس يستعملوا الى يسووه خمر والعنب يسووه خمر والموز يسووه خمر لا يكون هذا شيء على الجهاز المسائل لكن هذا هل يجيب عليك؟ لا ما يجيب عليك أنت بعت الأشياء لأنها مباحة أصلا لكن مستقبل الحرب هو كمان كذا. هذا
Le chef de l'Allah mentionne parmi ce qu'on appelle les conditions de la validité d'une transaction commerciale. La première condition, qui est une condition que les gens ignorent beaucoup, c'est le fait que tu dois posséder ta marchandise. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis de dire je possède telle marchandise et en fait on te l'achète et après tu vas chercher chez ton fournisseur. Puis après tu vends. Ceci n'est pas permis. Il faut que tu sois le détenant, le possesseur de la marchandise au moment où tu procèdes à la transaction. Ça c'est la première chose, posséder la marchandise que tu vends. Deuxièmement, c'est que la marchandise en soi ne soit pas illicite. Hein, comme le fait de vendre à la table. Mais par contre, il aborde le fait que si tu vends une marchandise qui est en elle-même illicite, mais qui peut être utilisée de manière illicite, ça ne t'incombe pas. La responsabilité ne t'incombe pas sur toi. C'est-à-dire que tant que ce que tu vends en elle-même, cette marchandise en elle-même illicite, ce que les gens en font ne t'incombe pas. Il donne un exemple. Par exemple, avec le raisin et les dattes. Dit le raisin et les dattes, est-ce que c'est licite? C'est licite à la base, parce que ce sont des fruits qui sont licites à la consommation, licites à la vente. Et donc la transaction commerciale avec elle est licite, parce que c'est licite en soi. Cependant, il dit, est-ce que c'est possible que le raisin et les dattes soient utilisés afin de produire avec fermentation un meilleur produit alcoolisé, c'est-à-dire dans le but de s'enivrer, et donc ce sera quelque chose d'illicite? C'est tout à fait possible. Il dit, mais cependant, est-ce que ça veut dire que toi, il va t'incomber alors, par la suite, qu'à chaque fois que tu vas vendre des dattes et des raisins, tu dis, si tu veux faire de l'alcool avec ça, je ne te le vends pas. À chaque fois que tu le préviens, etc., que tu mentionnes cette condition et que tu spécifies aux gens. Toi, à la base, à partir du moment où la chose que tu vends en elle-même est licite, tu vends, et ce que les gens en font, ceci n'est pas de l'ordre de ta responsabilité. Hein? Et si jamais tu vends, ta vente est licite à toi, ton bien à qui est licite, cependant la personne qui l'utilise dans le mal, de manière inappropriée, sur elle, alors pèse le péché. Non.
هذا السائل يقول أهل زوجتي يكرهون السنة وأهلها جاهلون لا حول لها ما نصيحتكم؟
نصيحتنا أنها تنصح
هذا يقول هذه السنة سنة من هذه؟ سنة الهادي النبي عليه الصلاة والسلام المبعوث إليه سنة هذه اللي يكره السنة هذه يكره الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا خطأ عظيم على باب كفر فتنصح يقول هذا ما يجوز احذروا هذا باب كفر يقول لك تقع في الكفر
تنصح إذا استجاب إذا ما استجاب اتركه
وما لا أهل زوجته وأهل يعني زوجته ما يلزم زيارته والكلام معه هي مسؤولة عن زوجها وأبنائها فإذا كانوا على فسوق وعلى بدع ما يلزمها تزوره ولا يلزمها تزوره ما يلزمها لأنه على بدع وعلى ما لا وإنه مضروها وضروها أولاد الله ما يلزمها لكن إذا كان أهلها والديها أخوانها يمكن تذهب تصاحب عليه راجع وتخفف الزيارة يعني من ذلك من
ذلك. ولكن جواب
خلاص من ذلك. ثانيا؟
نعم. انت
هاي؟
انت البقية من جواب Donc la question qui avait été posée, c'est concernant vis-à-vis de la belle famille de l'épouse d'un individu, qui sont des gens qui n'aiment pas la sunnah, ce sont des gens qui sont ignorants. Le chef Hafidhahullah Ta'ala explique donc par rapport à sa belle famille, qui n'aiment pas la sunnah, qui sont des gens ignorants, il leur enseigne. Il leur enseigne la sunnah, il leur donne le bon conseil. Sachant qu'il doit leur faire comprendre que la sunnah dont on parle, c'est la sunnah de qui? La sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que donc, il faut qu'ils comprennent, les membres de sa belle famille, de la famille de sa femme, il faut qu'ils leur fassent comprendre que détester la sunna est une manifestation de la détestation envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui-même. Ce qui est une porte menant à la mécréance. Donc, si il vient leur faire la nasiha, le bon conseil, et les appelle au bien, et qu'ils acceptent cette chose, et qu'ils coopèrent, entre guillemets, ils agressent sur quoi, vers quoi ils les appellent, dans ce cas-là, il n'y a rien à faire. Mais s'ils n'acceptent pas, alors il n'est pas dans l'obligation à lui de visiter sa belle famille. Non, il n'est pas obligé d'aller les visiter lui. Non, ce n'est pas une obligation pour lui de visiter les gens de sa belle famille si justement ils, ce sont des gens qui sont par exemple des déviants, des gens d'innovation, des gens qui pourraient causer du tort. Dis par contre si c'est des gens de sa famille à lui, non, des gens de sa famille à lui, alors il lui incombe de les visiter et d'essayer de faire un ishtihad vis-à-vis d'eux, de faire un effort dans le but de leur faire un nasiha. Et il restait deux ou trois questions, mais c'est des questions qui ont plus été demandées de détail. Et on le fera demain, Inch'Allah. Voilà, c'est tout.
Allah, il a écrit Brésilien, et Inch'Allah, Adam, par Salat al-Asr. Voilà.
Voilà,
l'Afrique. Voilà, l'Afrique. Voilà, l'Afrique. Voilà, l'Afrique. Voilà, l'Afrique. Voilà, l'Afrique.